La presse de ce samedi, passée en revue par Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Eric, bonjour Patricia et bonjour à tous. Julie était une élève brillante. Elle aimait les piercings, elle en avait un dans le nez. Elle aimait également se teindre les cheveux en rouge. Mais à l'âge de 20 ans, alors qu'elle était en deuxième année de prépa littéraire à Lille, elle a progressivement changé d'accoutrement, des vêtements de plus en plus amples. Elle s'est convertie à l'islam. Julie s'inscrit alors dans une université de Leipzig en Allemagne pour suivre une double licence. Là-bas, elle fait la connaissance d'un jeune Allemand, Martin, récemment converti lui aussi. Il se marie, elle tombe enceinte. Et à partir de ce moment-là, elle n'avait plus le droit de sortir, ni d'aller à la fac, ni de rencontrer d'autres hommes. Elle portait le niqab, raconte sa mère, Lydie. Lydie et Patrice Maninchéda habitent Libercourt, dans le Pas-de-Calais. Et c'est dans les colonnes de Libération qu'ils racontent le triste parcours de leur fille unique. Le signalement à la police quand ils découvrent que Julie vit désormais cloîtrée. La police qui leur apprend que leur gendre appartient à une mouvance radicale et que de ce fait, il a été placé sous surveillance. Surveillance brève fragile, en novembre 2014, il part avec Julie et leur fils pour Raqqa, le fief du groupe État islamique en Syrie. Lydie, par téléphone et par mail, tente de convaincre Julie de rentrer en France. En vain, Julie rétorque qu'elle a peur de son mari, lequel ne cesse de grimper dans la hiérarchie de l'organisation terroriste. Un deuxième garçon naît, Amar, en 2016, puis un troisième, Obeida, en février 2018, après quoi le couple se sépare. À Libercourt, on ne reçoit alors plus aucune nouvelle. Et puis, il y a deux semaines, Lydie Maninchéda reçoit un coup de fil qui lui apprend que sa fille a été retrouvée morte aux côtés de son nouveau mari et d'un nourrisson enroulé dans un tapis. Elle avait 26 ans et ses parents nourrissent des regrets éternels.
Mais désormais, ils mènent un nouveau combat.
Retrouver leur fille, c'est trop tard. Mais ils veulent faire rapatrier leurs trois petits-enfants. L'aîné, on ne sait pas où il est. Mais les deux autres vivent aujourd'hui dans un camp syrien où sont entassés près de 1500 femmes et enfants étrangers. Luc Mathieu, le reporter de Libération, nous explique qu'ils sont dans un état de santé très préoccupant. Leur père, lui, est emprisonné après s'être rendu aux forces kurdes et arabes et ce sont deux femmes djihadistes qui s'occupent d'Amar et d'Obeida, orphelins français de Daesh. Le couple nordiste a l'intention de se battre pour les faire venir en France. Notre fille est morte, martèle Lydie. Ils sont tout ce qui nous reste et elle en appelle au président de la République, lui demande de faire preuve de courage et d'humanité. Selon le Quai d'Orsay, 71 mineurs français sont actuellement en zone irako-syrienne. Et certains, comme ses deux frères, seraient en danger de mort.
Et dans le même temps, Frédéric, Daesh serait proche de la fin.
Du moins d'un point de vue, disons, militaire. 1 km², voilà, désormais, la surface du territoire du groupe État islamique en Syrie. Quelques rues, quelques bâtiments du village d'Al-Baghouz entre l'Euphrate et la frontière irakienne. À son apogée, le califat autoproclamé faisait la taille du Royaume-Uni. Aujourd'hui, les derniers djihadistes sont encerclés et la victoire des forces kurdo-arabes et des forces alliées serait imminente. Daesh, les dernières heures du califat, titre à sa une ce matin, Libération.
Oui, curieux contraste avec la couverture du Parisien.
Ce sont les richesses de la presse. Et là, il est question de cinéma. Un dossier sur la comédie, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Les critiques sur le film ne sont pas toutes extraordinaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, le film cumule déjà 3 600 000 spectateurs en 2 semaines. Un succès révélateur de l'état d'esprit des Français, souligne le quotidien, état d'esprit morose, un besoin de légèreté. Dieu qu'il est bon de rire, c'est le titre à la une. Et le journal a d'ailleurs questionné certains de ses lecteurs pour savoir ce qui les faisait rire actuellement. Les pièces de Goldoni, répond une étudiante. Elle a adoré la version de la Locandiera donnée à la Comédie française. Gad Elmaleh répond de son côté Ahmed, tandis qu'Antoine, un étudiant de 19 ans, répond lui les gilets jaunes. À la télé, dit-il, on nous les présente un jour comme des gentils et comme des méchants le lendemain. C'est très drôle à regarder, c'est un peu les feux de l'amour à la française. Dessin de Rançon pour illustrer, dialogue entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Nous avons grandement besoin de rire, souffle le premier. J'en ai une excellente, lance le second. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend le week-end prochain?
Oui, cela dit, il y en a que les gilets jaunes ne font pas rire du tout.
Pour preuve, la une de Paris-Normandie, mais où est l'issue, se demande le journal. Tandis que l'Ardennais explique que les trois derniers mois ont pesé lourd, très lourd, notamment pour les commerçants. Un chiffre d'affaires en baisse de 40% dans les magasins du centre de Charleville-Mézières. Même tonalité à la une du Figaro. Violence et blocage, cette France qui en a assez, avec la photo d'une voiture de police incendiée devant la Tour Eiffel. Après 14 semaines de manifestations, petits patrons et artisans expriment leur ras-le-bol face au jusqu'au boutisme de certains gilets jaunes. Ras-le-bol partagé par le journal, comme en témoigne l'édito d'Yves Tréhard. Maintenant, ça suffit, écrit-il. Quant au Huffington Post, il nous rapporte les propos que certains trouveront sans doute doucereux, les propos de Brigitte Macron hier, lors d'un déplacement avec Stéphane Bern dans la Meuse. Il faut que l'on se parle, qu'on se réconcilie, qu'on soit tous ensemble. On a un pays qui est beau, qui a une culture incroyable, une humanité incroyable et qui sait être généreux. Je voyage beaucoup, dit-elle, et chaque fois que je rentre, je me dis le bonheur est là où je suis. Soit. Mais il y a quand même de nombreuses tensions, ça et là. Dans la Dépêche du Midi, on nous raconte les menaces reçues par Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, des menaces de mort doublées de propos antisémites. Dans l'Indépendant, une affaire de harcèlement sexuel à l'université de Perpignan. Un professeur est mis en cause dans une vidéo publiée par un responsable étudiant. Autre violence dans la Nouvelle République des Pyrénées, à Tarbes. On s'inquiète des agressions sur les livreurs de pizza. Menaces à l'arme blanche pour quelques euros. Et puis j'en termine avec une note à la fois terriblement triste et magnifiquement joyeuse. C'est à la page 13 du Monde. La rubrique carnet, les annonces de naissance ou de décès. Là, ce sont des remerciements. Macha Meryl et la famille de Michel Legrand vous remercient des nombreux messages de sympathie et de condoléances. La musique de Michel vivra éternellement. Oui, c'est vrai. Regrets éternels, mais la musique est éternel aussi.
Frédéric Pommier qui va lire jusqu'aux avis d'obsèques et autres remerciements dans la presse.